Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Bienvenue, mesdames, messieurs. Nous allons donc reprendre notre exposé. Nous en avons terminé avec les deux premières conférences, avec les restitutions que nous avons pu faire de la transmission des textes avestiques. Bon, vous avez vu que les choses ont considérablement changé depuis 10 ans. Or, à peu près à la même époque, c'était dans le cadre du même cours, d'ailleurs, cours commencé en 95, il m'est apparu que l'auteur de la Nivide, rappelez-vous, la Nivide, c'est ainsi que nous pouvons définir les premiers chapitres, les annonces sacrificielles qui constituent le chapitre 1 et quelques autres de l'Avesta, et l'auteur de la variante du Visprat de la Nivite, dressent tous les deux une liste de textes. Ces textes, il en va autrement de la Nivite proprement dite et de sa variante. Ce qui va nous retenir aujourd'hui, c'est la variante Visprat. Elle a deux particularités. D'abord, elle donne à cette liste de textes un titre que nous connaissons parfaitement, puisque c'est le titre avestique d'un livre de l'Avesta sassanide. Le titre des textes que mentionne donc le Visprat, le chapitre premier, sont intitulés « Staota Yesnia », ce qui signifie littéralement « les éloges sacrificiels ». Les éloges sacrificiels, dans la traduction en moyen perse d'époque sassanide, ce titre devient de façon tout à fait régulière le « Staod Yasht ». C'est le « Yasht », c'est le livre fondamental de l'Avesta sassanide. Je vais pendant un bref moment vous commenter ce titre parce qu'il a une histoire qui n'est pas banale. Donc, il semble y avoir une continuité entre le titre avestique récent et le titre sassanide. Oui, mais le titre récent est repris, il est repiqué, si vous préférez, de la première strophe du troisième chapitre de la première gatha, c'est-à-dire le Yasna 31, qui mentionne, le récitant de cette strophe dit « Je vais commencer à réciter, pour vous qui désirez venir, les Staota Cha Yesnia Cha ». Ce qui est remarquable dans cette expression, c'est évidemment que les deux mots sont coordonnés avec la particule « cha » et ». Donc, très curieusement et de manière qui nous paraît tout à fait irrégulière, le nom « staota », l'éloge, est coordonné à l'adjectif qui devrait le qualifier. C'est tout à fait irrégulier, c'est tout à fait, évidemment, ça empêche en principe de donner cette traduction. Pourtant, « staota » est bien un substantif et « yesnia » est bien un adjectif. Alors, je crois qu'il y a ici quelque chose de très banal. Ça fait partie de la rhétorique extrêmement sophistiquée des gathas. Nous avons affaire à une ellipse où, en réalité, le « cha » que porte Staota est déplacé. Et il faut restituer, sous l'ellipse, Staota, Yesnia, cha. Et alors, le terme est passé sous silence, mais il est toujours complémentaire de Yesnia, Varmia, cha. Donc, les éloges qui servent au sacrifice et les éloges qui servent au chant d'adoration. Le Varma est un chant. Or, de surcroît, ces Staota Yesnia sont qualifiés par le Yasna 55, donc un texte qui se trouve dans le secteur qui va nous retenir. Et ils sont qualifiés au moyen d'une proposition relative qui est, elle aussi, repiquée dans les gathas. C'est le Yasna 33.1. Donc, encore une première strophe du sixième chapitre de la première gatha et qui mentionne « Ya data Ankhush, Uruyeya. L'Estautayesnya, qui sont les data, c'est-à-dire les règlements, les lois, si vous préférez, de l'état d'existence, l'état de celui qui existe, hein, c'est un génitif premier. C'est une expression traditionnelle des gata, l'état d'existence premier ou ultérieur. Mais ne me demandez pas ce que c'est, je ne suis pas du tout sûr que nous savons ce que cela signifie. Bien sûr, il y a une solution simple. L'existence première, ce serait celle que nous menons sur Terre, et l'existence ultérieure, celle que nous mènerons dans le paradis. C'est assez simple. Mais je ne suis pas du tout sûr que ce rapport-là n'est pas retourné, que l'existence première, c'est celle que nous mènerons dans le paradis, et l'existence ultérieure, la nôtre. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, nous avons existé, souvenez-vous du cours de l'an dernier, nous avons existé sous forme immatérielle, n'est-ce pas ? Avant d'exister sous forme matérielle, les fravashi, et les corps seulement, et l'existence d'après la mort, hein, c'est un retour à l'état premier, conçu comme un retour à l'état premier. Mais il est extrêmement difficile de définir la portée exacte de cette expression, pourtant, qui rôde partout, des legata, n'est-ce pas, l'état d'existence premier. Bon, alors, que nous ayons ici à faire une liste de textes significatives, vous poserez peut-être la question de savoir pourquoi cela n'est-il pas apparu avant l'année 1996. Eh bien, tout simplement parce que ce n'était pas possible avant. C'est une réponse très banale que je puis vous faire. Ce n'était pas possible avant parce qu'il fallait pour cela que nous soyons fait une représentation parfaitement adéquate de ce qu'était l'Avesta ancien. Or, 100 ans auparavant, théoriquement, Geltner aurait parfaitement pu dire que cette liste du Visprat constituait le plan de ce qu'il appelait l'Avesta pré-alexandrin. C'était théoriquement possible, puisque c'est une liste qui englobe les Gata et quelques Yashts. C'est très exactement ce que Geltner, lui, dit de l'Avesta ancien. Mais il ne l'a pas dit. Et il ne l'a pas dit pour une raison, c'est très facile à découvrir. N'oubliez pas que Geltner pensait que cette phrase était une phrase réécrite ou écrite par des gens du IIIe siècle de notre ère. Dès lors, la portée informative était faible, puisque les responsables de la collection de l'Avesta sassanide eux-mêmes étaient peut-être les responsables de cette phrase. Pendant longtemps, pendant très longtemps, pendant la majeure partie, les deux tiers du XXe siècle encore, n'est-ce pas, l'Avesta ancien était représenté, pensait-on, uniquement par les gata. Le terme gata signifie chant, les chants. Et ces textes étaient attribués au fondateur du système religieux de l'Avesta, Zarathoustra. Ce n'est pas un hasard si toutes les éditions, tous les commentaires qu'on a pu faire sur les Gata jusqu'en 1959 sont intitulés les Gata de Zarathoustra, de Zoroastre, ou peu importe, mais en tout cas référence aux textes exclusivement gathiques et fixation sur le nom de son auteur présumé. Toutes les traductions jusqu'en 1959, n'est-ce pas, sont intitulées en vertu de ce système. Or, à l'époque d'ailleurs, c'est un autre détail, n'est-ce pas, on oppose à l'intérieur de l'avestique, de la langue elle-même, le gathique, qui est la langue des gata, car elle est un peu différente, à l'avestique dit récent, qui est la langue de tout le reste de l'Avesta. Les choses se modifieront, il faut attendre l'année 1958. L'année 1958 est celle où paraît dans le Handbuch der Orientalistik allemand, donc une série d'ouvrages consacrés à tout le domaine oriental, l'article Alt-Iranisch, vieil iranien, rédigé par Karl Hoffmann. Ça, c'est le texte de fondation de la philologie avestique moderne, et ceux d'entre vous qui sont étudiants, Je le recommande de lire, de relire et de méditer ces quelques 17 pages qui ont considérablement modifié notre pratique philologique. Un élève de Hoffmann, qui travaillait depuis plusieurs années dans cette perspective, publiera en 1900 les Die Gathas des Zarathustra, c'est toujours le même titre, n'est-ce pas ? Il s'agit de Helmut Humbart. Mais la traduction de Humbart, j'ai déjà eu l'occasion de le dire plusieurs fois, représente une tout autre... un tout autre message, attribue au Gatha un tout autre message que celui de Bartholomé. Bartholomé, l'auteur du dictionnaire, ou Geltner, considérait, et à leur suite la plupart des philologues jusqu'en 1959, que les Gatha étaient des sermons en vers, vers prédictés, disait Bartholomé. Ça, ça a été très longtemps, jusqu'en 59. La conception unanime du texte gathique. Humbart, lui, y a reconnu des hymnes comparables aux hymnes védiques, ce qui n'est pas tout à fait exact, parce que les gathas sont beaucoup plus longs qu'un hymne védique, mais il y reconnaîtra ce qu'il appelle des lieder, des chants, des hymnes. À la suite du travail de Humbart, on va commencer à s'interroger sur les quatre brefs textes que l'on appelait en général prières, et dont trois précèdent directement le corpus gathique, et une le suit. L'unanimité n'est pas faite quant à ces textes. Je vous donne l'opinion, c'est la mienne, mais c'est celle en général aussi... De ceux qui peut-être accordent le plus d'importance à la grammaire des textes, on va considérer que la première prière, entre guillemets, ça, on dirait strophe pour ne pas nous avancer, voyez dans la liste que vous avez sous les yeux, l'Ahuna Vairia, c'est-à-dire le texte qui commence par Ahu, on désigne les textes généralement par leur premier mot, est bel et bien rédigé en vieil avestique, c'est l'évidence. L'Hachem Vohu qui suit et le Yenke Hatam ne le seront pas. Bon, ils ne le sont pas. Quelques-uns défendent encore l'idée qu'il s'agit de vieil avestique, mais c'est très improbable. La dernière strophe, par contre, Yasna 54.1, il faut que vous descendiez dans la liste à la fin du corpus gathique, la strophe Ariyamanishya est elle aussi en vieil avestique. Et il nous est apparu à Éric Pirard et à moi en 1988, en travaillant sur les gathas, que nous avions affaire en réalité à un problème d'ornementation. Et que les deux strophes authentiquement vieil avestiques, la première, la Huna Vairia, et la dernière, l'Ariyamanishya, était avec une certaine, par la pratique de certaines intercalations, était l'une, la première strophe de la première gatha, et l'autre, l'Ariyamanishya, la dernière strophe de la dernière, tout simplement, mais mise en évidence, l'une mise en exergue et présentée chacune comme constituant un chapitre particulier. Donc l'annexion de deux strophes supplémentaires au corpus gathique était constitué. Troisième prise de conscience. En 1986 seulement, vous voyez, nous nous rapprochons de la date de 1996, apparaît le livre « Der Yasna Haptankaiti » de Johanna Narten, qui démontre à l'évidence que le Yasna Haptankaiti n'est pas un texte intermédiaire entre les gathas et l'Avesta récent, mais que c'est un texte rédigé exactement dans la même langue que les gathas, donc que l'on peut qualifier lui aussi de vieil avestique. Le Yasna Haptankaiti, vous voyez qu'il est inséré dans la liste gathique, c'est la place qu'il occupe dans notre Yasna. Ce titre ne se réfère pas aux deux premiers mots, mais le titre définit son genre liturgique, c'est un yasna, c'est-à-dire un sacrifice, un texte liturgique d'une liturgie sacrificielle, et Haptenkaiti se réfère à sa composition. C'est un sacrifice en 7 chapitres. Dès lors, notre image, l'image que nous avions en 1996 du corpus vieil avestique, était achevée. Et il était possible de voir que l'auteur du Visprat mentionne les sections de l'Avesta ancien et fait figurer dans leur patronage une certaine quantité de textes récents auxquels, bien sûr, les textes anciens confèrent une part de leur autorité. Alors, nous pouvons conclure. Voilà, que conclure de cette liste que nous avons ici ? Eh bien, cette liste, pour la colonne de gauche, représente bien, du Yasna 27.13 au Yasna 54.1, notre Avesta ancien. Dans le même ordre. Dans le même ordre, et nous voyons aussi que pour l'auteur de cette liste, la Shemvohu, le Yasna 27.14 et le Yasna 27.15 font partie pour lui du corpus vieil avestique. Alors, les textes. Oui, il y a bien sûr de petits détails qui vont retenir notre attention parce que c'est ceux-là qui aujourd'hui sont intéressants. Alors, en 1996, j'avais voulu définir, comme je vous l'ai rappelé, cette liste textuelle comme un proto-yasna B, c'est-à-dire un ancêtre génétique du yasna que nous avons. Depuis cette année même, nous savons que ce n'est pas le cas, puisque Alberto Cantera, à qui nous devons le tableau qui se trouve, que vous avez sous les yeux, a démontré qu'il s'agissait en réalité d'une variante de notre yasna, et que cette variante était aujourd'hui tombée en désuétude, raison pour laquelle nous ne l'avions pas. Mais cette variante consistait à intercaler entre certains textes de l'Avesta ancien un certain nombre de textes récents, dont la plupart étaient des yashts. Vous voyez que l'intercalation a lieu, d'après les titres qui se trouvent dans la colonne de droite, n'est-ce pas ? L'intercalation a lieu après chaque gata, mais aussi après le yasna haptenkaiti. La liste de textes, pour autant qu'on puisse l'identifier, mentionne après la première gata, après l'Ahunavaiti gata, un texte qui est consacré, je traduis l'expression avestique qui figure là, aux femmes divines, les guenards, ce sont les déesses, hein, les déesses qui ont pour troupeau des hommes de races diverses. C'est un texte que nous n'avons pas, et nous sommes bien embarrassés pour identifier ces femmes divines. Alberto Cantera pense qu'il pourrait s'agir du Yasht 13 au Fravashi, puisque les Fravashi sont des âmes féminines, hein, et que chaque homme, qu'il soit homme ou femme, possède une Fravashi. Donc il y a un balancement entre le masculin et le féminin. Et c'est l'explication de Cantera. Je ne suis pas sûr que c'est juste. Je ne suis pas sûr que c'est juste. Même je crois que ça ne l'est pas. Parce que dans la liste de la Nivide, on fait la distinction entre ce texte-ci, qui est lui aussi mentionné, et le Yasht 13 au Fravashi. Or, dans une liste textuelle, on ne mentionne pas deux fois le même texte. Alors, il manque quelque chose parmi les entités de la cosmogonie. Il manque un maillon de la cosmogonie à quoi ne correspond pas un texte sacrificiel. Ce sont les plantes. Nous avons des textes aux eaux, nous avons des textes à la terre, etc. Mais nous n'avons pas de texte consacré aux plantes, qui sont un des maillons ordinaires de la cosmogonie mazdéenne, selon l'Avesta. Alors, je me demande si ce texte ne fait pas référence à un texte sacrificiel consacré aux bonnes plantes, puisque, bien sûr, l'Avesta prend toujours le soin de le dire, puisqu'il y en a de mauvaises. Donc, ce qui correspondrait bien au titre, n'est-ce pas, s'il s'agissait d'un texte sacrificiel aux plantes. Alors, voyez l'intercalation après le Yasnahapinkaiti du Yasht 5. Ça, c'est le Yasht aux eaux, hein, le Yasht d'Anahita, le Yasht 19 au Kwarna, et puis une erreur imputable à Alberto Quintera. Je ne sais pas pourquoi il mentionne le Yasht 15, mais il s'agit en réalité du Yasht 14 à Vertrakna. Enfin, après la Vohukshatra Gata, le Yasht 10 à Mitra, et après la Vaishto Ishti Gata, la Dharma Afriti, ce qui signifie la propitiation experte. Et c'est un texte que nous possédons parce qu'il a été réinséré dans le Yasna. Nous le trouvons au Yasna 60 exactement. Donc, texte identifiable. Donc, voilà où nous en sommes. Donc, cette liste est évidemment très utile. Elle nous apprend très exactement que pour les auteurs de l'Avesta récent, le corpus ancien était très exactement ce qu'il est aujourd'hui. Qu'il s'agisse ici d'une variante avec intercalation de notre Yasna ou non, c'est une autre question, c'est un raffinement du savoir. Mais l'enseignement sur la fixation de l'Avesta ancien reste d'application et cet aspect du témoignage du Visprat a été analysé avec insistance par Almut Hintz dans un article de 2004. Bien, mais quelque chose pourtant est passé inaperçu d'Almut Hintz. C'est que nous nous faisons, sur des bases linguistiques, de l'Avesta ancien une image relativement compacte et aussi relativement symétrique. Voyez, regardez, si nous, sur la base de la linguistique, comment se compose l'Avesta ancien ? Eh bien, une brève strophe d'introduction, Lahuna Vairya. Puis, une gatha composée de 7 chapitres, Lahuna Vaiti Gatha. Enfin, le Yasna Aptankaiti, qui lui aussi a 7 chapitres. Puis, à nouveau des textes gathiques, donc 10 chapitres. Ça, c'est le petit élément de dissymétrie. Et puis, une strophe conclusive. On a l'impression, comme je l'ai écrit, n'est-ce pas, que l'Avesta ancien constitue une sorte le Yasna en tout cas, présente à l'apparence d'un double écrin. Les textes récents enserrent le corpus ancien, et à l'intérieur du corpus ancien, les textes gathiques enserrent le Yasna Aptankaiti. Hein? Donc, nous avons cette impression-là. Or, ce n'est pas du tout l'image que s'en font les auteurs de l'Avesta récent. Loin de là. Voyez, la représentation des auteurs de l'Avesta récent, il y a 3 strophes liminaires au lieu d'une. Nous savons que 2 ne sont pas réellement rédigées en vieille avestique, mais cela n'a rien à voir. Ensuite, une gatha. Et après cette unique gatha, un texte intitulé Ahumant Ratumant, que pour d'excellentes raisons, Pas Quintera affuble d'un point d'interrogation parce que nous ne savons pas ce que c'est. Nous n'avons pas. Je crois qu'il y a 2 possibilités. La première, ce serait une répétition. Une répétition d'insistance sur la strophe gathique Yasna 29.6, qui a effectivement la particularité, c'est même la seule strophe que nous puissions définir comme ça, de contenir le mot Ahu et le mot Ratu, car Ahumant, Ratumant signifie cela. Hein, le texte qui contient le mot Ahu et le mot Ratu. Le mot Ahu, c'est celui que vous avez dans l'état d'existence, et le mot Ratu, signifie le modèle, hein, le modèle ou le texte archétypique. Tous les textes mentionnés dans la colonne de gauche sont d'ailleurs qualifiés de ratu. Ce sont des ratu parce que ce sont des paroles sacrées archétypiques. Ce que ne sont pas les textes de la colonne de droite, hein, Il y a une différence de dignité entre les deux collections. Bon, le texte Avuman Tratuman, c'est peut-être aussi une insertion en Avestique récent. Peut-être le Yasna 19 que nous avons lu au séminaire il y a 2 ans. Et le Yasna 19 est une exégèse de l'Ahuna Vairya. L'Ahuna Vairya ayant aussi la particularité, avec le Yasna 29.6, de contenir le mot Ahu et le mot Ratu. Donc nous aurions affaire non pas au texte, un texte de vie avestique proprement dit, mais à son commentaire. Bon, devons laisser les deux choses. En tout cas, ce texte, cette répétition ou cette introduction a disparu de notre corpus ou a été déplacé. Alors, deuxième différence, c'est qu'il y a, si j'ose dire, un troisième larron textuel. Dans ce corpus, nous n'avons pas seulement des textes gathiques, texte gathique en vers, et puis le Yasna Vaptin Gaïti en prose, pas ce diptyque où nous distribuons notre Avesta ancien, non. Il y a un autre texte, le Shusho Mantra. Le Shusho Mantra. Or, un autre texte de l'Avesta récent, le Yasna 57-22, nous dit que le dieu Srausha est le premier à avoir sacrifié en récitant l'Ahuna Vairya. L'Ahuna Vairya, qui est la désignation métonymique du corpus gathique, hein, c'est sa première strophe du corpus gathique. L'Ahuna Vairya, le Yasna Hatankaiti et le Shusho Mantra. Notre diptyque s'efface devant un triptyque. Un triptyque. Gata, Yasna Hatankaiti, Shusho Mantra. Shusho Mantra, le mantra, vous connaissez, c'est un mot sanskrit célèbre, hein, c'est-à-dire la formule, traduit généralement par la formule, Shusho est un génitif, et Shushan, le mantra du Shushan, qu'il nous faut traduire avec précision, parce qu'on traduit généralement, c'est un mot qui est atténué, comme on le fait souvent lorsqu'il est question de religion mazdéenne ou zoroastrienne. On traduira par propriétaire du bétail, ou par éleveur de bétail, etc. Non, c'est celui qui conquiert le bétail. C'est celui qui se livre à la razzia du bétail. Hein? C'est un mot beaucoup plus brutal que ça. Donc le mantra du razzieur de bétail. C'est un troisième élément. Or, dans notre yasna, un texte intitulé de cette manière, mais qui pose des problèmes que nous devrons aborder, figure au yasna 58. Et, donc, Yasna 54.1, nous passons en principe au Yasna 58. Nous pourrions donc considérer que pour l'auteur du Visprat, c'est avec le Yasna 58 au moins, ou plutôt que se termine l'Avesta ancien, car les textes qui suivent posent des problèmes, nous ne les connaissons pas, nous ne les identifions pas, ils ne semblent pas être vieilles avestiques. L'auteur du Visprat, quoi qu'il les mentionne comme des textes, ils ne patronnent plus rien, et ils n'ont pas droit à la qualification de Ratu, ce qui semble indiquer donc une autorité moindre. Par contre, le Hadish, le tout dernier, que nous ne possédons pas non plus, ça signifie le socle de celui qui va qu'au soin de pâture, Vastravant, ce texte-là, nous ne le possédons pas, mais il n'est pas possible qu'il soit lui aussi vieil avestique, que ce soit là aussi un texte vieil avestique. Alors, il y a encore autre chose, encore un détail. Dans l'ordonnancement des choses, selon les auteurs de l'Avesta récent, le Visprat, les premiers chapitres du Visprat, ne le mentionnent pas. Mais d'autres textes récents le savent, puisqu'ils le nomment. Il y a dans le corpus gathique une répétition du Yasna Haptankaiti, entre le Yasna 51 et le Yasna 52, si vous voulez, et le Yasna 53. Le 52 est une interpolation récente. Or, le Yasna 51, c'est la Vohukshatra Gatha. Vous voyez, nous sommes à la fin du corpus gathique. Eh bien, entre la Vohukshatra Gatha et la Vahishto Yishti Gatha, on répète la récitation du Yasna Haptankaiti. Les auteurs, la pratique existait au temps de la rédaction de l'Avesta récent, puisque l'Avesta récent appelle ce Yasna Haptankaiti Apara, l'ultérieur, le Yasna Haptankaiti ultérieur, le deuxième, si vous voulez. Or, c'est aussi un moment clé du sacrifice. dans sa relativement paisible analyse du yasna, le Dastur Kotwal, fait remarquer que c'est un moment où l'on veille à réciter les textes avec une beauté particulière. Oui, d'accord, ça ne nous dit pas grand-chose, bien entendu, mais tout de même, il y a un détail aussi dans les textes avestiques que nous possédons, c'est que ce moment est un moment clé entre le yasna, entre l'avohukshatragata et l'avahishto-yishtigata. C'est là que se produit, dit le texte avestique, le vertrakna. Le vertrakna, donc le bris de l'obstacle. L'obstacle est brisé. Il faudra que nous retenions cela. C'est quelque chose qui, à ma connaissance, n'est pas commenté. Et on verra quelle place les auteurs de l'Avesta récent réservent à cette notion, à cet endroit-ci de la cérémonie sacrificielle. Alors, comme nous ne... N'est-ce pas, cette représentation de l'Yasna n'a plus rien de compact, de l'Avesta ancien n'a plus rien de compact et plus rien de symétrique en apparence, mais en apparence seulement. Supposons que nous excluions de cet Avesta ancien, des rédacteurs de l'Avesta récent, les textes qui ne sont pas authentiquement rédigés en avestique, c'est-à-dire le Yasna 27-14. Revenez à votre liste. Hein. Le Yasna 27-15. Le texte Ahumantratumant, qui n'est peut-être pas rédigé en vieille avestique. Le Fshusho Mantra, nous commenterons cela pour essayer de définir son statut, qui n'est pas non plus sûrement rédigé en vieille avestique. Et en faisant abstraction des derniers livres que nous ne pouvons même pas, qui ne nous permettent même pas de faire des conjectures, puisque nous ne les avons pas, on voit se dessiner effectivement une image tout de même relativement symétrique, aussi relativement symétrique que celle que nous nous étions forgées sur la base linguistique. Une strophe d'introduction, plus des chapitres gathiques, plus le Yasna Aptankaiti, plus des chapitres gathiques, plus un autre Yasna Aptankaiti, plus une strophe de conclusion, puis le Fshusho Mantra, nous n'en tenons donc pas compte. Hein. Voilà l'image des chapitres authentiquement vieille avestique. Bon, on a restauré du compact et de la symétrie, mais c'est plus la même. Hein. C'est-à-dire que le Yasna Aptankaiti n'apparaît plus au centre de l'Avesta ancien, mais le centre, le noyau de l'Avesta ancien. C'est la deuxième série de gatha, donc celle qui commence par l'Ushtavaiti et se termine par la Vohukshatra. Nous verrons aussi que c'est un détail qui a son importance pour la conception du sacrifice. Le cœur du récitatif du Yasna, c'est le corpus gathique situé entre le Yasna 43, l'Ushtavaiti, et la Vohukshatra, le Yasna 51, avant le Vertrakna, avant la deuxième récitation du Yasna Aptankaiti. Alors, voilà, lorsque je me suis proposé, il y a maintenant plusieurs mois, car on nous demande de prévoir le sujet de nos cours longtemps à l'avance, ce qui est parfois ennuyeux, j'ai donné à ce cours le titre « Sortir du sacrifice ». Avec l'intention, bien sûr, de dépeindre ce qui se passait après la récitation du corpus gathique, qui pour moi s'achevait nécessairement avec le Yasna 54.1, et donc de tenir compte des enseignements des chapitres qui suivaient, à commencer par le Yasna 55. Mais dans la conception que les auteurs eux-mêmes de l'Avesta récent se faisaient de ce corpus ancien, le Yasna 55, est encore interne au corpus vieillavestique. Ce n'est pas un texte vieillavestique, hein. C'est un maillage d'annexion. Je le définirais comme cela. Car les gathas et chacune de leurs chapitres sont sertis, pas, de phrases en avestique récent, qui assurent simplement leur annexion au corpus. Or, ceci, c'est l'élément final du maillage du corpus gathique. Alors, nous sommes encore en plein sacrifice, oui. Ça ne m'embarrasse pas beaucoup. Et si vous m'avez bien compris, vous savez pourquoi. C'est-à-dire que, de toute façon, il s'est produit quelque chose de nouveau. C'est le fameux Vertrakna. Et c'est un tournant du sacrifice. Nous sommes entrés dans une nouvelle phase, et une phase qui, effectivement, amorce la fin du sacrifice, d'une certaine façon, quoique nous soyons toujours à l'intérieur même de ce que l'on considérait comme le corpus d'Estaota Yesnia. Il y a encore, nous avons dans ce corpus d'ailleurs des interpolations récentes, hein, il y a des interpolations récentes. Le Yasna 42, est une liste en Yasamaïdé, donc où interviennent des entités, des abstractions que nous ne connaîtrions pas par ailleurs. C'est l'avestique récent. Vous voyez que l'auteur du Visprat ne mentionne pas ce Yasna 42. À la place exacte où l'on répète le Yasna Haptankaiti, mais en réalité, après lui, nous trouvons un Yasna 52. Un Yasna 52 qui est un texte avestique récent consacré à la déesse Ashi. En considérant que l'Yasna 55 fait partie de ce que j'appelle le maillage, nous pouvons le mettre entre crochets, puis nous passons au Yasna 58 qui est le Shusho Mantra. Le Yasna 56 et 57 sont des textes en avestique récent, je dirais, plus ou moins, parce qu'il y a des syntagmes anciens dans le Yasna 56, pas dans le Yasna 57. Donc, des interpolations récentes consacrées au dieu Srausha, qui est d'ailleurs considéré comme l'époux d'Ashi. C'est donc un couple divin qui, dans cette phase du sacrifice, présente une certaine importance, puisque tous deux reçoivent dans ce grand sacrifice solennel réservé tout d'abord à Ahura Mazda, en tête de toutes les listes d'invitations, n'est-ce pas? Ils présentent ces deux divinités, représentent probablement quelque chose d'essentiel qu'il nous faudra définir pour qu'ils trouvent ainsi une place véritablement personnelle à ce moment-ci du long sacrifice. Bien, alors, ce qu'il nous faudrait tracer après ceci, j'ai donc dû, par la nécessité des choses, c'est ce qui a été modifié, vous parler de la composition de l'Avesta ancien. Maintenant, revenons-en à notre Yasna, le Yasna de l'Avesta Ausgabe. Comment se termine-t-il? Nous allons d'abord, avant de passer à son analyse, tenter de voir sa structure. Donc, nous en avons une idée, n'est-ce pas, ce que nous considérions, nous, linguistes, comme l'Avesta ancien, se termine avec le Yasna 54.1, donc un texte qui annexe le corpus gathique au Staota Yesnia, le Yasna 55, deux textes consacrés à Srausha, puis le Shusho Mantra au Yasna 58. Le Yasna 59 est une répétition de la litanie d'invitation en Yasamaïdé. Donc, c'est un texte qui ne présente pas d'originalité, sauf par deux ou trois strophes finales qui ont leur importance et sur laquelle nous reviendrons. Le Yasna 60 figure dans la colonne de droite de l'auteur du Visprat. La Dharma Afriti, donc la propitiation experte. Comme toujours, ces termes désigne bien sûr un type particulier de cérémonie sacrificielle. Celle-ci est définie comme une propitiation, mais définit aussi, tout à fait complémentairement, un type particulier de texte et qui peut très souvent se définir par un choix terminologique ou grammatical tout à fait précis. Je vous ai déjà expliqué souvent au séminaire qu'un yasna, c'est tout simplement dire yasamaïdé, nous sacrifions, ou bien yasai, je sacrifie. Il y a une coïncidence totale entre la parole et le genre rituel qui est rendu. Donc, l'infriti est une propitiation et sa caractéristique est d'aligner une série de passages où l'on souhaite quelque chose, à soi-même ou à quelqu'un d'autre. C'est un souhait. Une infriti s'exprime sous la forme d'une liste de souhaits, et ces souhaits, très grammaticalement vus, s'expriment à l'optatif aoriste, à l'intérieur même de l'avestique récent, qui pourtant a, en principe, sauf à l'optatif, éliminé la catégorie verbale de l'aoriste, mais où elle survit. Où elle survit, comme d'ailleurs de manière assez analogue en sanskrit par rapport au védique, n'est-ce pas, où on trouve la catégorie du précatif. Donc elle survit dans le genre afriti. Or, l'afriti, le yasna 60, est un texte qui, pour la plus grande partie, est rédigé à l'optatif aoriste. Le yasna 61, oui, 61, et c'est uniquement un texte d'annexion à nouveau. Là, nous avons, c'est l'annexion de la Dharma Afriti au corpus des Stauta Yesnya. Puis le reste, je serai plus bref. Le chapitre 62 est un texte qu'on appelle aujourd'hui la Tashnia Yishn, que, oui, depuis l'époque moyen perse, bien sûr, Niya Yishn. C'est-à-dire la fondation du feu. La fondation du feu. Ça paraît bien tard dans le rituel. En principe, l'ordre indo-iranien des choses aurait voulu que le préliminaire du sacrifice soit la construction de l'autel du feu, bien sûr. Mais non, il n'y a pas de cela, n'est-ce pas? Il n'y a pas de cela dans le texte du yasna. Un collègue m'a un jour fait remarquer, après un cours que j'avais fait ici, que c'était était tout de même très curieux que l'on parle toujours d'adoration du feu et que le feu occupe une place aussi limitée dans l'Avesta. Il est question de lui que très rarement. C'est un des rares textes, mais nous y reviendrons, pas qu'il soit consacré au feu. Et il intervient dans la phase finale du yasna au lieu d'intervenir en préliminaire. Ce n'est pas totalement absurde, n'est-ce pas? Il y a une part d'impression que nous avons ici. Bien sûr, il serait bien que nous ayons un texte consacré à l'entretien du feu dès les préliminaires, parce que logiquement, on doit l'allumer, sauf si, comme aujourd'hui, le feu est permanent. Mais bon. Aussi, dans les rituels védiques, un texte d'offrande au feu, n'est-ce pas, intervient dans la phase finale du sacrifice. C'est donc plutôt un déséquilibre. Ce n'est pas la place d'un texte au feu à cet endroit, tout de même relativement tardif du sacrifice, qui est anormal. Ce qu'il nous faudra voir, c'est qu'en est-il des préliminaires. Le texte au feu, et puis un texte beaucoup plus long, composite, mal transmis, de 63 à 68, et qui est intitulé en moyen perse Lab Zoa, c'est-à-dire la libation, les libations aux eaux. Donc nous revenons à un rituel des eaux après le rituel du feu à la fin du sacrifice. Ce qui correspond aussi, comme le pense Xavier Tremblay, au bain final des sacrifiants védiques dans les grands rituels brahmaniques. Quoi qu'il ne soit pas question de bain ou même de nettoyer les instruments du culte, c'est peut-être à cela, mais en tout cas, il s'agit de textes extrêmement hétéroclites. Ici, la question qui va se poser à nous, c'est nous avons l'impression qu'il y a ici un peu un travail d'antiquaire, n'est-ce pas, d'avoir sauvé des textes dont la transmission était compromise et d'en avoir fait une sorte de coupé-coller avec des textes qui avaient une motivation rituelle extrêmement diverse à une certaine époque. Il y a, ça c'est très clair, hein, il y a de grandes entités rhétorico-rituelles dans ce texte, et ce qui ne correspond pas du tout d'ailleurs à la libation, mais qui correspond par exemple au genre de la demande, ce qui est devenu rare dans l'Avesta récent, hein, le yana, la demande faite aux dieux. Une part du texte se définit ainsi pour les eaux, le yana. Alors, après un certain nombre, 69-70, un certain nombre de chapitres composés exclusivement de citations des gathas, après ce texte et avant le texte très bref de clôture, 72, nous trouvons un chapitre 71 qui est le chapitre virtuellement final, qui est intitulé en moyen perse Wisp. Wisp. Là, c'est très clair, ceci correspond. C'est à nouveau une litanie en yazamaïdé, répétition. Elle est peu différente cette fois-ci de celle qu'on trouve au Yasna 17 et au Yasna 59, mais il s'agit clairement du renvoi des divinités. Le sacrifice est fini, rentrez chez vous. N'est-ce pas ? C'est la cérémonie de clôture que nous connaissons aussi par le rituel brahmanique. Alors, nous allons appliquer une certaine grille de lecture à certains de ces textes ou à des extraits de ces textes, ceux qui nous paraissent les plus significatifs. Alors, cette grille de lecture, elle est très facile à établir. Je me suis rendu compte très vite que chaque texte procédait à quatre opérations. Quatre opérations sont... D'abord, la première, c'est de réaliser ce que j'ai appelé, déjà dans mon exposé jusqu'ici, des cercles concentriques d'annexion. Il faut que chaque texte constitutif de ce secteur du Yasna soit rattaché par une formule au texte qui au corpus en voie de formation, hein, au texte qui le précède, afin que le corpus progressivement s'étende. C'est d'ailleurs cette pratique qui rend tellement difficile, n'est-ce pas, qui a rendu tellement difficile et si laborieuse les discussions sur l'éventuelle composition du Stot Yasht de l'Avesta sassanide, n'est-ce pas ? En réalité, je crois que le Stot Yasht sassanide, c'est très exactement notre Yasna. C'est très exactement notre Yasna, et non pas, comme le dit tel texte moyen perse, comme le dit tel spécialiste, un texte qui commence au Yasna 14, ça c'est l'hypothèse d'Armestetter, commence au Yasna 14 et se termine avec le Yasna 59. Non, nous ne pouvons pas calculer, bien sûr, le nombre de textes constitutifs du Stot Yasht, parce que nous ne savons pas comment ces textes étaient découpés à l'intérieur du Stot Yasht. Puisqu'il est dit qu'il y en a 33, pour envisager un corpus qui va de 14 à 59, vous voyez que Darmstetter a dû faire des coupes, hein. Il a dû faire des coupes. Sont-elles légitimes? Ne sont-elles pas? Que faut-il faire des répétitions, etc. C'est très difficile d'établir, de faire des comptes. Mais ce que nous pouvons faire, c'est voir qu'effectivement, très souvent, c'est vrai au début du Yasna et c'est vrai à la fin, on a l'impression que quelque chose de nouveau et d'important commence. Mais ça se reproduit en permanence, n'est-ce pas ? Ou bien on a l'impression que quelque chose s'achève à la fin du Yasna. Mais non, c'est une annexion. On ajoute un texte. Voilà, le corpus est étoffé d'un texte supplémentaire. Alors pourquoi le Yasna 14.1 ? Pour ça, eh bien, c'est pour une raison très, très simple. Hein. C'est-à-dire que c'est l'endroit où le collège sacerdotal, où le zautar, le responsable du sacrifice, se trouve en mesure de commencer à parler aux divinités. Jusque-là, il ne l'a pas fait, parce que les préparatifs n'étaient pas suffisants. Sa personnalité sacrificielle n'était pas constituée. Et au Yasna 14.1, ça y est, pas, il dit au Dieu, je suis votre Zaotar, donc le sacrifice va commencer. Donc c'est un début, oui, c'est un début, mais il y a tellement d'autres choses. Alors, bien souvent, regardez notre auteur, hein, de notre Visprat, pour lui, commence avec la Houda Vahiria. Ah oui, c'est le début de la Veste ancienne, un nouveau début. D'ailleurs, tout souligne, n'est-ce pas, dans le début du Yasna, que l'on va arriver à un moment particulièrement solennel, qui sera le Yasna 27-13, et le début de la récitation de la Veste ancienne. Donc, ces cercles concentriques d'annexion, je pense, nous permettent de considérer que le stotiage de la Vesta sassanite, c'est notre Yasna. Deuxième opération, à part l'annexion, c'est un renvoi en écho au préliminaire, c'est-à-dire ce qui précède le Yasna 27-13. Je vous en ai fait une description la dernière fois. Cette description nous sera utile parce que nous verrons les échos. Il n'y a pas nécessairement symétrie. Il n'y a pas d'ordre particulier. Ça se fait dans le désordre, mais c'est des renvois aux opérations des préliminaires. Là, c'est une chose assez claire, je pense. C'est une façon de dire, bien sûr, attention, mission accomplie. Hein, ce que nous avons voulu faire, les projets que nous avons formés dans les préliminaires du sacrifice, nous l'avons accompli. Cela se trouve à présent accompli. Et nous verrons que cela se présente de manière extrêmement fréquente dans les textes de la fin du Yasna. Alors, troisième opération, anticipation sur le programme, l'inverse de renvoi en écho, anticipation sur le programme. On annonce régulièrement, à partir du Yasna 55, ce qui va suivre. Nous verrons que le Yasna 56, par exemple, à sa manière, nous dit « Oui, maintenant, nous allons nous livrer à des opérations sacrificielles au bénéfice du dieu Srausha, au bénéfice du feu, au bénéfice de l'eau. » Il y a une sorte de table des matières, ce qui est une pratique très fréquente de l'Avesta. L'Avesta procède très souvent par des textes qui fonctionnent, hein, comme une table des matières. Voilà où on va. Alors, bien sûr, la dernière opération, c'est bien sûr définir ce qui est en train de se passer, hic et nunc. À quoi le texte lui-même, le texte que l'on récite maintenant, correspond à l'intérieur du rituel. Bien sûr, chaque texte constitutif de la fin du Yasna procède à ces opérations, mais pas toujours en mettant une insistance semblable sur chacune, n'est-ce pas ? Certains textes sont consacrés plutôt à l'annexion, d'autres aux échos, d'autres aux anticipations, etc. Mais c'est la grille de lecture que nous allons appliquer. Et nous commencerons, je vous laisserai aller un peu plus tôt parce que je ne veux pas commencer ça maintenant. Il faudra le faire au début de la leçon prochaine. Nous verrons déjà l'importance que refait vis-à-vis de ces opérations la toute première strophe post-Vieille Avesta, hein, si je puis m'exprimer comme cela, c'est-à-dire le Yasna 55.1. C'est une strophe que nous allons devoir examiner en détail. Et vous savez, ceux d'entre vous qui sont habitués, je donne toujours le texte en langue originale, mais j'essaierai de faire une analyse qui ne nécessite pas la connaissance de la langue. Hein. Il faut faire je fais cet effort chaque fois, vous le savez bien, mais il faudra que nous observions tout de même cette strophe avec une certaine acribie philologique, parce qu'elle est extrêmement révélatrice du moment sacrificiel où nous nous trouvons. Alors, je vous remercie.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.